Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique en direct jusqu'à 19h30. Ce soir, c'est la rentrée de Soft Power, 14e saison pour cette émission avec quelques changements dans la continuité ou si vous préférez de la continuité dans le changement. D'abord, un nouvel horaire pour Soft Power qui sera désormais avancé d'une petite heure de 18h10 à 19h30, donc tous les dimanches. Ensuite, une émission un peu réorganisée, désormais en quatre grandes séquences, quatre segments, l'actualité des industries culturelles et du numérique, en début d'émission chaque dimanche, suivi d'un grand invité, ils seront d'ailleurs deux ce soir, Ruth Mackenzie et Thomas Loriot dit Prévost, le duo à la tête du théâtre du Châtelet à l'occasion de la réouverture de ce théâtre et de la pièce Parade. Bonsoir à tous les deux.
Merci, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Le troisième sujet ce soir, troisième séquence, sera consacré à la souveraineté numérique française, ou ce qu'il en reste. Emmanuel Paquette de L'Express, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
Et Gilles Fontaine de Challenge, bonsoir Gilles.
Bonsoir Frédéric.
Sont au rendez-vous tous les deux, prêts pour une nouvelle saison de Soft Power, la 14e. Ça ne vous rajeunit pas Emmanuel?
Malheureusement non.
Quatrième et dernière séquence de Soft Power ce soir, Amazon avec vous Zoé Sfez pour Le Monde selon Amazon.
On va revenir avec Benoît Berthelot, journaliste notamment au magazine Capital, sur Amazon. Il livre une très belle enquête qui vient de paraître aux éditions du Cherche Midi sur l'histoire finalement de cette entreprise, ses ambitions, sa manière finalement d'envahir à peu près le monde et notre quotidien avec des projections, même pourquoi pas dans 10 ans.
Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power. Ce soir, cette émission sera réalisée toute cette année par Lionel Quentin et Véronique Villa. Véronique Villa qui est aux manettes ce soir. En régie, Cindy Le Grumelec. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet et Théo Corbucci avec pour les réseaux sociaux Abdelila Laloui, une toute nouvelle équipe aussi pour Soft Power. Émission que vous pouvez suivre cette saison. Vous pourrez suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, et bien sûr en podcast chaque semaine en s'abonnant gratuitement sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Hier soir, Yann Moix était l'invité star de On n'est pas couché, de Laurent Ruquier, il l'était aussi de Marc Weisman, ce dimanche à la mi-journée sur France Culture. La polémique se poursuit autour du nouveau roman de Yann Moix, Orléans, et surtout des révélations sur ses vieux dessins et sur ses textes antisémites. Ariane Chemin, dans Le Monde, est revenu ce week-end sur cette polémique, rappelant au passage à ceux qui ne le sauraient peut-être pas que Catherine Barma, qui produit On n'est pas couché, est également la productrice de chez Moix, vendu à Paris Première, ce qui peut expliquer le fait peut-être que France Télévisions, qui souhaitait déprogrammer Yann Moix hier soir, a malgré tout dû l'accepter après la pression de Catherine Barma. Autopromotion donc croisée, où tous les amis, éditeurs, copains, journalistes sont venus à l'aide, à la rescousse de Yann Moix, de Grasset avec Olivier Nohrat, en passant par Denis Oliven, Éric Nolot, et ce matin, Bernard-Henri Lévy, très longuement dans Le Point. Un vaste réseau donc, qui a souvent dénoncé à juste titre les auteurs antisémites, mais semble bien indulgent pour leur ami Yann Moix. On a le droit d'être pardonné 20 ans après les faits, rappelle ce matin dans Le Point Bernard-Henri Lévy. Hier soir dans On n'est pas couché, émission un peu étrange, un peu complice, copine, où les téléspectateurs étaient en fait eux les seuls à être très mal à l'aise, Yann Moix a demandé pardon. Dimanche prochain dans Soft Power, nous reviendrons sur cette question avec la rentrée télé et les nouveaux formats des émissions télé. France Culture 18h15, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec quatre sujets. Nos trois chroniqueurs, Emmanuel Paquette de L'Express, Gilles Fontaine de Challenge, Challenge, on dit.
Challenge.
Mais sans S, ou avec un S.
Avec un S, mais on ne prononce pas le S. Mais par contre, à la française, Frédéric.
Ah oui, mais...
Challenges.
Et Zoé Sfès de France Culture. Alors, on commence avec vous, Emmanuel Paquette. Vous revenez de Los Angeles, quasi envoyé spécial de Soft Power, en immersion chez Disney. Disney, qui est l'un des premiers et des plus importants conglomérats médias au monde, qui a connu une année à la fois artistique et commerciale époustouflante, exceptionnelle, et qui s'apprête à lancer sa plateforme de streaming, le Netflix de Disney, en quelque sorte, le 12 novembre.
Oui, effectivement. Alors, c'est un grand pari pour Disney. L'idée, c'est d'essayer de rattraper Netflix avec ses 150 millions d'abonnés dans le monde. Et c'est d'autant plus un pari pour Disney qu'ils ne doivent pas cannibaliser aujourd'hui leur modèle économique, qui est de vendre leurs programmes aux chaînes de télévision. Donc là, l'idée, c'est de réserver une partie de ces programmes directement à la plateforme et donc de racheter les droits, ce qu'on appelle « clearer les droits », c'est pas très français, mais auprès de tous les de toutes les grandes chaînes au niveau mondial. Alors sur cette plateforme qui sera donc commercialisée 6,99 $ aux États-Unis, au Canada, et alors aux Pays-Bas, dont on ne connaît pas encore le prix pour l'instant.
C'est-à-dire en Europe.
Donc. En Europe. Donc le lancement, il est prévu pour le 12 novembre. Une semaine plus tard, ça sera l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui seront concernées. Et très probablement, le reste de l'Europe, au premier semestre 2020, la France devrait être touchée par la vague Disney, normalement au printemps 2020. Avec deux grands problèmes qui se profilent en Europe.
Alors, premier problème, la chronologie des médias.
Oui, alors ça, c'est un problème qui concerne particulièrement la France, puisque les plateformes de SVOD, donc de services de vidéo à la demande, ne peuvent distribuer un film que 36 mois après sa sortie en salle. C'est-à-dire que Disney+, qui aux États-Unis va proposer Captain Marvel, qui est sorti en février-mars de cette année, sur sa plateforme, et le dernier Avengers, qui est toujours en salle aujourd'hui et qui sera disponible à partir de décembre, ne pourront pas être sur la plateforme française, au mieux, avant 2022. Donc, toute une partie du catalogue Disney qui est passé par les salles de cinéma, qui ne sera pas disponible en France. Et on ne sait pas exactement ce que Disney va faire là-dessus. On a évidemment posé la question. On n'a eu aucune réponse, si ce n'est le marché français est un marché compliqué.
Donc, c'est une conférence de presse, il y avait des gens qui venaient devant vous, mais vous n'aviez pas le droit de les interroger.
Non, ils repartaient assez vite.
Ils repartaient en courant. Pourtant, on était chez Disney, ils n'avaient rien à craindre.
Normalement, non, mais c'est vrai que les polémiques enflent, notamment avec le conflit qui les oppose avec Sony.
Alors, au niveau européen maintenant, la directive européenne pose aussi un certain nombre de problèmes.
Oui, effectivement, puisque la directive dite SMA, donc des services multimédia audiovisuels, doit être transposée dans différentes législations européennes, dont la France en début d'année 2020. L'idée de cette directive, c'est de dire que les plateformes de SVOD, donc Disney+, mais Netflix ou Amazon, devront aussi participer à la création européenne avec 30% minimum de quotas européens sur la plateforme. Alors 30%, c'est-à-dire soit des achats de programmes européens, soit de la coproduction ou de la production européenne. Là où ce n'est pas clair, c'est qu'est-ce que représentent ces 30%? Est-ce que c'est 30% en minutes? Est-ce que c'est 30% en épisodes? Est-ce que c'est 30% de référence? Tout ça doit être clarifié en fait dans le vote de la loi française prévue en début d'année prochaine.
Alors autre problème, l'Europe c'est quoi? Sachant que beaucoup de ces produits sont sous marque européenne et donc appartiennent au fond à de l'investissement de la production européenne, mais sont en fait en Grande-Bretagne, avec un problème qui peut s'annoncer, bien sûr, avec le Brexit, s'il est confirmé.
Exactement, si le Brexit survient, puisque maintenant on est dans un espèce de brouillard politique, on ne sait pas ni quand ni comment, mais si le Brexit survient, la Grande-Bretagne sort de l'Europe et du coup ne rentre plus dans les 30% des quotas européens, ce qui veut dire que Disney va devoir se rattraper sur les marchés français, espagnol et allemand. Pour l'instant, Disney a très peu de production ou de coproduction. Ils ont annoncé une coproduction Pixar qui sera disponible que sur Disney+, basée sur les personnages de Monster, qui va s'appeler Monster at Works, qui est développée par une petite société qui est basée dans le sud de la France, près de Montpellier, qui s'appelle Dwarf Animation. Mais mis à part ce type de contenu, plus quelques séries qui sont achetées et qui sont disponibles sur Disney Channel aujourd'hui, mais on ne sait pas si elles seront sur Disney+. C'est vrai qu'il y a une grande interrogation de savoir si Disney va devoir acheter des productions européennes, ce qui aujourd'hui n'a pas vraiment de sens pour Disney, puisque l'idée c'est de se réserver son propre catalogue pour le mettre à disposition des internautes.
Alors en dépit de ces difficultés que vous avez senties au fond à travers des silences qu'elles évoquaient pour Disney lorsque vous étiez à Los Angeles, on peut malgré tout dire que Disney a signé une année absolument record en termes financiers mais aussi artistiques, et ça ne devrait pas cesser puisque Disney veut investir massivement dans la création de contenus exclusifs, notamment pour Disney+, tant au niveau international qu'au niveau européen.
Alors c'est sûr que cette année ils ont déjà 6 films qui ont fait plus de 1 milliard de dollars au box-office, avec le record d'Avengers, hein, qui est aujourd'hui à 2,7 milliards. Donc c'est le box-office le plus important de l'histoire du cinéma, devant Titanic, devant Avatar. Donc c'est déjà quand même un énorme succès d'estime, en tout cas, par rapport au box-office, de Disney sur cette année. Après, il y a eu effectivement Aladdin, il y a eu le remake en version
Roi Lion,
entre guillemets, du Roi Lion, exactement, qui
très beau, d'ailleurs,
qui a 1,5 milliard de dollars déjà aujourd'hui. Il y a eu Toy Story 4 de Pixar. Donc on a vu toute une série et on en attend encore deux qui sont la Reine des Neiges qui doit sortir dans quelques mois. Mmh. Et puis surtout le Star Wars épisode 9 qui sortira fin décembre, qui risque de battre à nouveau des records. Mais ces deux sorties vont arriver sur la prochaine année fiscale de Disney, puisque Disney boucle son année fiscale en septembre. Donc elle ne pourra pas comptabiliser la Reine des Neiges 2 et Star Wars qui eux seront sur la prochaine année.
Soft Power sur France Culture, 18h21. Deuxième sujet d'actualité ce soir avec vous, Zoé Sfez. Alors, ça renvoie un peu à ce qui s'est passé depuis quelques semaines.
Nous mais on a le vu point de l'été.
Tout un tas de nominations qu'on attendait d'ailleurs pour certaines depuis fort longtemps, qui ont eu lieu avec certaines qui sont toujours en attente.
Qui sont toujours en attente, notamment la direction du patrimoine. Alors, effectivement, depuis, d'ailleurs, Françoise Nyssen le racontait dans un livre que vous aviez chroniqué, on est en attente de grandes nominations au ministère de la Culture depuis assez longtemps. Toutes devaient, ou en tout cas attendaient, la validation en fait de l'Élysée, d'Emmanuel Macron, et on a vu arriver cet été au Journal officiel, validé au dernier moment, plusieurs nominations relativement importantes, certaines très contestées. Première nomination attendue depuis très longtemps, celle du successeur de Stéphane Lissner au poste de l'Opéra de Paris. Il faut vous rappeler que Stéphane Lissner devait terminer son mandat en 2021. L'ouverture pour la candidature avait été lancée pour la suite de son poste il y a 2 ans. Il y a eu un système d'audition des candidats absolument inédits, relativement humiliants, qui ne donnaient strictement rien. C'est finalement Alexander Nief, dont le nom a été très longtemps éclipsé par d'autres candidats, disons plus prestigieux, qui a été nommé. C'est la carte de l'outsider. C'est un homme qui ne travaille plus depuis longtemps en France, mais qui a été, disons, longtemps un protégé de Gérard Mortier, grand nom de l'Opéra de Paris. On va se retrouver avec une situation très particulière, puisqu'il est nommé en tant que successeur préfiguratif. Stéphane Lissner continue encore pour 2 saisons à la tête de l'Opéra de Paris. Donc c'est une nomination trop tardive qui fait qu'on est obligé de garder le directeur actuel pour finalement boucler les 2 années qui manquent, ce qui est problématique dans l'opéra parce qu'on le sait, il faut boucler les grands chanteurs, les grands metteurs en scène
longtemps,
1, 2, 3 années à l'avance. Donc là on va avoir 2 années très compliquées. Je vois nos deux invités du Théâtre des Châtelets opiner du chef sur cette question. Nomination attendue, relativement consensuelle et plutôt qui a fait l'unanimité, celle d'Emma Lavigne à la tête du Palais de Tokyo. Emma Lavigne, vous savez qu'elle était la patronne du Centre Pompidou Met. C'est la première femme à occuper ce poste. Elle a fait ses preuves, elle a 51 ans. C'est une nomination relativement saluée par la profession. Toujours pas, en revanche, de directeur pour la Villa Médicis à Rome. Rappelez-vous que Muriel Mayette-Holtz, qu'on avait reçue dans Soft Power, a été remerciée il y a un peu plus d'un an maintenant. On ne sait toujours pas d'ailleurs si l'existence même de la Villa Médicis continue à être validée par l'Élysée. Donc là-dessus, gros silence radio. Mais il faut néanmoins qu'on parle de la nomination qui a fait le plus couler d'encre cet été, c'est celle du producteur Dominique Boutonnat à la tête du Centre National du Cinéma. C'est la première fois que la maison, le CNC, ne sera pas dirigée par un haut fonctionnaire. Et alors, cette nomination a tout de suite donné lieu à une levée de boucliers dans le secteur. 70 cinéastes qui ont immédiatement signé une pétition. Ça va de Rebecca Zlotowski à Jacques Audiard. Les syndicats de la profession et les étudiants de la FEMIS ont tous signé cette pétition sur Change. Alors pourquoi ? Qui est Dominique Boutonnat ? Il faut essayer de refaire un petit passage. C'est un homme qui est issu d'une famille parisienne. Son frère Laurent Boutonnat est plus connu parce que c'est le producteur et le compositeur de Mylène Farmer. Il a fait une courte apparition à l'écran à 9 ans, puis ensuite il a fait un parcours beaucoup plus classique. C'est un camarade de classe de Sciences Po d'Edouard Philippe. Il a fait ses débuts chez AXA et puis finalement à 35 ans il se met à travailler sur le cinéma en apprenant sur le tas sur le tournage du film de son frère Jacou le Croquant, qui a été un gros succès public. Et ensuite il va créer un fonds ISF qui va injecter de l'argent, 75 millions d'euros dans 250 films, ça au cours de ces 15 dernières années, ça va du Chant du Loup à The Search, le film de Michel Hazanavicius. Alors ce qui se passe, c'est que cet homme est par ailleurs un peu producteur, mais en fait il n'a que 2 réels films à son crédit, Monet du géorgien Gela Babloani et c'est Maïsoé qui va sortir à la fin de l'année. Dans la bio que nous a envoyé le ministère de la Culture lorsqu'il a été nommé, on explique qu'il a participé de près ou de loin au développement de 250 projets cinématographiques particulièrement divers qui vont du passé d'Asghar Farhadi à Police de Mai Wen. En réalité, c'est vraiment de près et plutôt de loin. Ce qui se passe, c'est que cet homme rencontre Emmanuel Macron à un dîner privé en 2016, qu'il devient un soutien et qu'il devient surtout, et ça on l'a vu plusieurs leaks ont été dévoilés, il a été surtout l'un des principaux donateurs d'Emmanuel Macron pour sa campagne. Emmanuel Macron qui lui a commandé un rapport remis le 13 mai dernier, un rapport sur le financement privé dans le cinéma, un rapport qui déjà avait alerté la profession puisqu'il appelle à attirer massivement des investissements privés dans la production et dans la distribution cinématographique. Il se réfère notamment dans ce rapport aux films comme à des produits culturels, c'est la formule qui revient tout le temps. Voilà, lui, il a une volonté véritablement d'organiser au CNC une réforme qui notamment aura pour but de diminuer les apports du financement public au CNC et d'attirer notamment les grands fonds d'investissement dans le cinéma. Enfin, une dernière nomination qui n'est pas confirmée, mais c'est la suite d'un feuilleton qui a bientôt plus d'un an. Rappelez-vous, en 2018, en août 2018, l'écrivain Philippe Besson était nommé par décret à la tête du consulat de Los Angeles par Emmanuel Macron. Alors cette nomination de copinage posait problème. On avait eu plusieurs grandes pétitions, là encore, des syndicats, puisque les postes d'ambassadeurs, eux, relèvent de la prérogative du président, mais que les postes de consul sont traditionnellement dévolus au personnel sous statut des agents diplomatiques et consulaires, et donc la possibilité de nommer un proche président là. On donne des visas,
voilà. Des tampons, donc, des passeports, etc.
Ils font des compétences, on va dire, administratives, ouais. Hiérarchiques. Donc cet homme qui n'est non diplomate inquiétait beaucoup. Le Conseil d'État avait finalement annulé ce décret. Ça, c'était l'été dernier. Philippe Besson s'en était ému largement dans la presse en expliquant qu'il avait des compétences culturelles qui étaient nécessaires à ce poste de consul de Los Angeles. On apprend aujourd'hui, dans le magazine Challenge, que Emmanuel Macron compterait utiliser une disposition du projet de loi pour la transformation de la fonction publique, ce fameux projet de loi, pour relancer son projet de nommer l'écrivain Luc Besson. Donc, on n'a pas encore de nomination officielle, on ne sait pas très bien comment il va s'y prendre. Mais voilà, c'est voilà, une des dernières nominations qui portent le sceau. Voilà, on est sur des nominations qui portent vraiment le sceau du président de la République, ce qui, en matière de culture, à ce point-là, est relativement rare.
Encore une fois, qu'un ambassadeur soit nommé, c'est arrivé depuis longtemps. Beaucoup de présidents l'ont fait. Qu'on le nomme attaché culturel, comme d'autres, à Los Angeles, ne poserait aucun problème si ça l'intéresse d'être dans la culture et à Los Angeles, mais consul pose problème et changer la loi, ou en tout cas les décrets, pour cette personne, c'est un débat qui va sûrement monter dans les semaines à venir si c'est confirmé. Troisième sujet d'actualité rapidement ce soir, pour ceux qui s'intéressent et qui suivent les programmes de BFM TV et qui ont une box free, eh bien, ils ne peuvent plus, Gilles Fontaine.
On peut suivre plus BFM voir. TV. C'est l'écran noir ou presque.
Ils peuvent quand même le voir sur leur internet ou sur.
Oui, laissez le suspense, Frédéric. D'abord, il ne s'agit pas que de BFM TV, il s'agit aussi de RMC Story, de RMC Découverte, donc les trois chaînes diffusées.
Ah oui, ça nous pose beaucoup de problèmes.
Voilà, je sais bien, mais rassurez-vous, il y a des solutions, on évoquera ça tout à l'heure. Alors pourquoi plus de diffusion depuis mardi dans la nuit? Eh bien, parce que Alain Veil, le patron d'Altice, donc qui est le propriétaire de ces trois chaînes, réclame à Free un petit peu d'argent. On parle de un peu plus de 4 millions d'euros. Ça a été démenti par Xavier Niel, le patron créateur de Free. En tout cas, Xavier Niel dit pas question de payer des chaînes qui sont de toute façon par essence gratuites
sur la TNT,
diffusées sur la TNT. Alors tout ça a duré depuis en gros le printemps dernier.
La bataille avait concerné Orange, elle avait concerné Bouygues.
Alors la bataille va venir avec Orange.
Mais il y avait déjà eu une première passe d'armes.
SFR a accepté de payer, mais SFR fait partie du groupe Altice,
voilà, donc
ils
BFM
ont réussi
TV,
à s'entendre avec eux-mêmes. En tout cas, avec Xavier Niel et Free, ça traîne en longueur depuis de nombreux mois, et donc Free a été un petit peu contraint d'arrêter de diffuser ses chaînes sans accord du groupe Altice. puisqu'il y avait quand même une astreinte de 100 000 euros par jour et par chaîne qui leur pendait au nez. Donc 300 000 euros, si les comptes sont bons, par jour, ça commence à faire beaucoup d'argent. Donc le groupe Iliad, propriétaire de Free, a décidé d'arrêter de diffuser ces trois chaînes. À la place, explique à ses spectateurs, téléspectateurs ou ses clients comment ils peuvent, en branchant leur Freebox sur leur antenne TNT, continuer à voir BFM TV, qui est quand même une chaîne très regardée, notamment le matin. Hein, je crois que c'est ou en tout cas les trois chaînes sont, ça représente à peu près 25% de l'audience des matinales télé. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est finalement, on se demande qui perd et qui gagne dans ce petit jeu de dupes, parce que du côté évidemment de BFM TV et Altice, c'est quand même un manque à gagner considérable, puisque les audiences vont mathématiquement chuter, et c'est des chaînes qui vivent de fait beaucoup de la publicité. Et puis du côté de Free, alors même si on n'imagine pas encore un exode massif des abonnés de Free, des Freenautes comme on les appelle, vers la concurrence, il y a quand même un petit risque effectivement d'érosion. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a en plus une bagarre d'hommes, c'est-à-dire que Free, dirigé par Xavier Niel, Altice dirigé par Alain Veil, les deux hommes se connaissent extrêmement bien. D'ailleurs, Xavier Niel a financé Veil à ses débuts, hein, quand il était, ce sont deux entrepreneurs. Xavier Niel a réussi bien avant son camarade, son ancien camarade Alain Veil. Alain Veil était lui-même administrateur d'Iliad. Ouais,
partagé des postes au conseil d'administration.
Voilà, pendant quelques années. Il en est sorti en 2015, au moment où il s'est allié à Patrick Drahi, l'ennemi juré de Xavier Niel. Les deux hommes se connaissent également depuis longtemps et se détestent cordialement. Et on peut imaginer qu'il y a aussi cette dimension humaine dans cette petite bagarre. En tout cas, je pense que Xavier Niel doit trouver effectivement un malin plaisir à faire traîner les choses, d'autant plus que, on le disait tout à l'heure, l'affaire n'est toujours pas réglée avec Orange et que ce dossier-là arrive dans quelques semaines, puisque en principe elle devait être réglée pendant l'été, mais pour éviter justement les encombrements de dossiers sur les bureaux, Alain Veil a préféré ajourner et retarder un petit peu les négociations, et Orange a d'ores et déjà dit qu'il était extrêmement réticent, lui aussi, à payer.
Ouais. Nous verrons. Ouais. Du temps que nous suivrons. Pour terminer cette actualité, ces actualités de la semaine, Zoé Sfez, un petit bilan peut-être des festivals de l'été.
Oui, avec un bilan assez contrasté cette année, en tout cas intéressant. On se pose tout le temps la question, et on se l'est posé cette année d'ailleurs dans Soft Power. Y a-t-il trop de festivals en France ? Ça a très bien marché pour Avignon, qui malgré des critiques assez acerbes sur sa programmation, a eu un taux de remplissage de 95,5%. Ça fait rêver tous les programmateurs de théâtre. Fréquentation en hausse pour beaucoup de festivals très assis. Solidays qui a atteint des records. Rock en scène qui progresse un peu. Hein, c'était le dernier, c'était la semaine dernière. Mais des festivals qui devaient naître, qui n'ont pas vu le jour. Le festival Val de Rock qui avait un budget de près de 4 millions d'euros. Et puis surtout, la grosse tendance et le marqueur assez triste de cette année, c'est que les deux grands festivals du sud de la France de la musique classique, à savoir les Corégies d'Orange et le festival d'Aix-en-Provence, ne vont pas bien du tout. Fréquentation très largement en baisse pour Aix-en-Provence, et ce malgré la nomination d'un nouveau directeur qui s'appelle Pierre Audi, et un des budgets les plus importants de la région, avec un budget de 24 millions d'euros. Donc on est à moins 15%, et plusieurs concerts qui ont été annulés faute de public, carrément, la venue de l'orchestre de Lyon. Et puis les Corégies d'Orange, qui, rappelez-vous, l'année dernière, en 2017, en tout cas, étaient au bord de la faillite. Ils avaient 1 million d'euros de dettes. On a relancé la machine et ça marche très moyennement, même si, et ça on peut le regretter, il y a eu 4 grandes annulations au Corégies d'Orange. Roberto Alagna, qui devait venir, n'est pas venu, et Anna Drebko non plus. Donc ça joue fatalement un rôle. La question de savoir comment ces deux festivals importants, Orange c'est le plus vieux festival d'art lyrique au monde, peuvent survivre, va devoir se poser cette année.
Encore un mot sur l'actualité de ce week-end avec la disparition de Marcel Le Dun à l'âge de 90 ans. Marcel Le Dun, c'était ce grand marionnettiste qui a émerveillé les nuits de nos enfances avec Gros Ours et ses personnages de Nicolas et Pimprenel. Bonne nuit les petits, ce programme diffusé sur les ondes de l'ORTF dès 1962. Puis sur France 2 jusqu'en 1994, Marcel Le Dun est mort dans la nuit de jeudi à vendredi et son décès a été annoncé hier. Bonne nuit les petits, faites de beaux rêves, ça vous rappelle des souvenirs. À suivre dans Soft Power, un débat avec nos chroniqueurs sur la souveraineté numérique française. Et dans un instant, je reçois les deux directeurs du Théâtre du Châtelet, le duo à la tête du nouveau Théâtre du Châtelet. Mais juste avant, et pour clore définitivement cette fois cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur le musicien country et rappeur Lil Nas X. Son morceau Old Town Road a été l'un des hits du printemps et de l'été, l'un des succès les plus durables du Billboard, de son histoire, un numéro 1 du top 100 depuis 19 semaines. Or cet été, il a été d'un coup, tout à coup, rayé de la liste country de ce palmarès au prétexte que sa musique ne sonnait pas assez country. La polémique ne cesse de croître depuis. Trevor Noah dans le Daily Show a pris sa défense cette semaine en pointant du doigt le fait qu'il n'était peut-être pas assez blanc pour représenter la country. Lil Nas X a 20 ans, il est fils d'un chanteur de gospel, il est noir et il est gay. Au même moment, Time Magazine a fait sa une sur ce chanteur, ce 26 août, sur cet artiste, et Michelle et Barack Obama l'ont mis à dessein dans leur fameuse playlist de l'été. Lundi dernier, les MTV Video Awards lui ont également décerné deux statuettes, meilleure chanson de l'année, meilleure réalisation pour sa vidéo, une vidéo de cowboy d'ailleurs magnifique, véritable parodie de toute la mythologie western. Le phénomène Lil Nas X est également intéressant pour ce qu'il révèle des évolutions de l'industrie musicale, où un artiste est lancé grâce à Twitter et surtout grâce au réseau social TikTok, où l'on peut se filmer sur un vidéoclip. Voilà, grâce à ces influenceurs d'un nouveau genre, puis aux versions remixées avec d'autres artistes, dont les stars coréennes de BTS pour cibler en l'occurrence le marché asiatique, et le countryman Bill Ray Cyrus que l'on écoute, Old Town Road fait danser actuellement un peu toute la planète. Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. France Culture, 18h38.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Deuxième séquence, deuxième segment de cette émission Soft Power ce soir. Je reçois Ruth Mackenzie et Thomas Loriot dit Prévost, les deux directeurs en duo du Théâtre du Châtelet à l'occasion de la réouverture du Théâtre du Châtelet, attendu depuis fort longtemps, qui s'apprête enfin à réouvrir ses portes. Et puis on en parlera dans une deuxième partie, le spectacle, la pièce Parade. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir et merci.
Bonsoir Frédéric.
Alors comment vous voyez la nouvelle ère, la nouvelle étape d'un des théâtres musicaux les plus vieux en fait de France et un des plus grands aussi d'ailleurs après l'Opéra de Paris?
Bon, c'est le 21e siècle et encore une fois, le Théâtre du Châtelet doit trouver les formes innovantes et les publics nouveaux. C'était toujours le cas avec le Théâtre du Châtelet. Bien sûr, Parade était une création de ballet russe. C'était
Diaghilev, Cocteau, Picasso, Satie,
oui, voilà. Tout le monde, hein? Oui.
Mais on refait ça. On en parlait tout à l'heure, mais on refait.
Mais c'était scandaleux.
À l'époque, ouais.
À l'époque. Nous essayons de faire les choses avec un peu de surprise, pas de scandale, peut-être. Mais nous avons fait une création, nous allons faire une création. En ce moment, nous sommes en répétition avec les trois troupes de cirque, une troupe d'Africains, une troupe de New York, une troupe parisienne, qui fait une création inspirée par Parade, mais ce n'est pas le même spectacle. Il y a la musique de Satie, il y a les influences de Cocteau et de Picasso, et un petit peu de Diaghilev et Massine, mais ce n'est pas un ballet, c'est un spectacle avec toutes les formes d'art, musique, cirque, l'art de la rue, et une chance pour tout le monde de devenir un artiste eux-mêmes.
Alors avant de parler de Parade, Zoé Sfeld, sur le théâtre du Châtelet.
Bah sur le théâtre du Châtelet, parce que l'identité de ce théâtre, elle est très particulière, elle l'a toujours été, son histoire a aussi entre beaucoup de choses. Dans les années 60, c'était l'opérette, le chanteur de Mexico, ce qu'on disait vulgairement, les petites opérettes pour concierge, avec beaucoup de mépris, certains spectateurs de l'Opéra de Paris le regardaient comme ça. Il y a eu la période Stéphane Lissner dont nous parlions, il y a eu la période Jean-Luc Chaud, plein qui a d'une certaine manière essayé de marier cet héritage à une volonté de nouveauté. Il y a eu les grands moments du ring. Comment est-ce que vous la voyez cette place? Parce que c'est vrai que l'offre à Paris, elle est très importante. Il y a l'Opéra Bastille qui couvre beaucoup. Il y a le théâtre des Champs-Élysées qui fait du lyrique. Il y a toute une foule de théâtres de comédie musicale. Vous le voyez comment cet équilibre qu'il faut trouver et que chaque directeur a essayé d'inventer, notamment vous, Bruce Mackenzie, vous êtes un beau duo parce que vous, je crois que vous connaissez très bien la maison puisque vous y avez été dans l'administration.
Thomas
Loriot, vous, Bruce Mackenzie, vous venez d'ailleurs. Comment est-ce que vous voyez ça justement?
Il y avait toujours la surprise. Il y avait toujours un esprit de trouver un public plus large, peut-être, que les autres maisons de l'opéra, j'ose dire. Mm-hmm. Et pour nous, nous avons commencé avec l'idée absolument simple, c'est-à-dire que tous les citoyens de Paris ont déjà payé pour ce théâtre. Et donc, c'est notre devoir de trouver les services qu'on peut donner aux tous les citoyennes et citoyens. C'est ça?
Oui, oui. Et pour compléter ce que dit Ruth et compléter également votre propos, c'est vrai que l'histoire du Théâtre du Châtelet, c'est une histoire extrêmement riche, extrêmement forte, et dans laquelle être fidèle et s'inscrire dans une continuité de cette histoire est à la fois passionnant et on a une sorte de boîte à outils formidable, parce que au Théâtre du Châtelet, il y a eu des époques très populaires, il y a eu des époques où de très grands artistes sont venus bouleverser ce qu'on connaît de la programmation artistique, il y a eu des créations et une innovation artistique très forte, et on reprend tout ça, on le mixe et on essaye de le projeter dans le 21e siècle, avec à la fois cette fidélité au passé du Théâtre du Châtelet, et puis l'innovation, l'invention qu'on souhaite donner au monde de la culture et du spectacle pour les années à venir.
Il y avait un volet digital, justement.
Le meilleur exemple, c'est l'objectif, c'est de trouver les spectacles où on peut imaginer au même temps les choses populaires et innovantes, parce qu'il n'y a pas un choix, en fait. Si on parle, par exemple, de Damon Albarn, qui était...
chanteur de Gorillaz, mais aussi qui a toute une foule de projets.
Exactement.
À côté.
Il a fait beaucoup de choses au Châtelet. Il vient faire encore les choses. Mais Gorillaz, ça, c'est un très bon exemple. Ça, il a commencé avec quelque chose de subversif, expérimental. C'était absolument innovant. Mm-hmm. Et maintenant, il joue avec Gorillaz dans les stadiums de 10 000. Dans une tournée mondiale. Et pour nous, avec Picasso, avec Cocteau, avec Satie, maintenant, ils ne sont pas innovants, ils sont absolument populaires. Mm-hmm. Et pour nous, c'est l'objectif, c'est peut-on travailler avec les citoyennes et citoyens de Paris, avec les ateliers, de trouver les talents et les spectacles qui peuvent être innovants et populaires au même temps.
Et alors justement, là dans la programmation que vous avez, on va revenir sur Parade que Frédéric Martel a entrevu en répétition, le chanceux, mais vous avez fait effectivement, il y avait un volet innovant, voire digital je crois d'ailleurs dans votre projet commun qui vous a permis de remporter l'affaire. Vous avez une programmation annoncée qui effectivement va bien au-delà de ce que faisait, puisqu'il faut le nommer, Jean-Luc Chopin, où il y a eu un soft power du Théâtre du Châtelet pendant 10 ans, où on parlait de ses grandes productions, même à Broadway. Là, on a la présence d'Abdel Malik, mais on a aussi des ballets de William Forsythe. Comment est-ce que vous avez réussi à doser justement des têtes d'affiche plus françaises Et des, disons, des spectacles de renommée internationale ou des, par exemple, des chorégraphes, Mercy Cunningham, etc.
Mais vraiment, on doit dire que c'est un programme d'évolution et pas tout à fait révolutionnaire parce que Abdelmalik, il était au Châtelet avec Jean-Luc Chopin, bien sûr, Forsyth, et il était là avec Stefan Lisner et Brosman aussi, je pense. Et nous avons An American in Paris qui est un grand succès de Jean-Luc.
Que vous avez fait au Grand Palais, en fait, hors les murs, c'est ça?
Et qui revient. Et qui revient en décembre.
Oui, oui, c'est un cadeau pour Noël. Mais il y aura An American in Paris avec des Américains à Paris, le New York Times, qui vient faire encore les débats avec nous, Me Too, Now What, avec l'équipe de Gender Equality de New York Times, parce que c'est le 21e siècle. Et il y aura une création numérique pour le public qui s'appelle Dancing with Your Shadow. On peut danser sur la place du Châtelet avec vos ombres. Voilà.
Alors la place du Châtelet, c'est aussi un autre théâtre en face, le théâtre de la ville. Il y a d'autres lieux autour. Vous envisagez le théâtre du Châtelet dans quel environnement ?
Alors, le théâtre du Châtelet, c'est d'abord le théâtre des Parisiens. C'est très important de le rappeler. Ruth le disait tout à l'heure, c'est un théâtre qui est financé pour la moitié de son budget par la ville de Paris, donc par l'ensemble des Parisiens. Et c'est très important de se rappeler que sa position centrale dans Paris, elle a aussi un sens. On est au cœur de Paris. Et donc, on a vocation à irradier autour de nous, en cercle concentrique.
Le premier cercle, c'est le théâtre de la ville.
Alors, qui lui aussi, comme son nom l'indique, est financé par la ville de Paris.
C'est vraiment notre cousin, si on peut dire, puisque c'est la même structure juridique.
C'est même un petit frère, on peut le dire aussi.
C'est le même architecte qui a construit la même année. Mais nous faisons beaucoup de projets ensemble avec le théâtre de la ville. Par exemple, Les Justes et...
Abdelmalik, justement.
Abdelmalik, exactement.
On a vu en répétition avec des anonymes.
Au théâtre de la ville.
Exactement.
Mais on a eu les ateliers pour Les Justes avec les jeunes...
On a commencé
à Aulnay-sous-Bois et ça c'est très important parce que on a travaillé avec beaucoup des ateliers dans les banlieues parce que maintenant c'est un projet de le Grand Paris, ça c'est un projet très important pour nous et pour tout à Paris je pense. Mais avec le théâtre de la ville, on travaille ensemble avec Abdelmalik et avec William Forsythe et avec Merce Cunningham. Ça, c'est très important.
Et avec Pina Bausch un peu plus tard.
Et Pina Bausch, oui, exactement.
Qui viendra sur un nouveau spectacle sur les péchés capitaux, c'est ça?
Presque jamais vu.
En France, oui. Un autre mot sur le théâtre lui-même, qui est en restauration depuis longtemps maintenant. Alors, j'ai pu le visiter hier. On est presque prêt, c'est pas encore tout à fait. Il y a encore du plastique un peu partout. Les chaises sont pas encore totalement... On n'a pas enlevé le plastique justement, mais vous avez voulu redonner au fond à ce théâtre ses aspects d'origine, c'est un peu ça, tout en le modernisant bien sûr avec l'électricité, tout ce qui n'allait pas en termes de sécurité, d'accès aux handicapés, etc.
Alors il faut évidemment rendre à César ce qui est à César, et c'est-à-dire la ville de Paris ce qui est à la ville de Paris. C'est la ville qui conduit les travaux, qui a défini le programme. Alors évidemment, dans le cadre d'un bâtiment historique qui est classé, il y a beaucoup de contraintes qui se révèlent par la suite évidemment être de magnifiques opportunités parce que, alors évidemment je suis très subjectif, mais quand on est en train de regarder la salle telle qu'elle est aujourd'hui ou les espaces publics, c'est absolument magnifique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le théâtre du Châtelet, ça va être la découverte d'un théâtre splendide, et pour ceux qui connaissaient le théâtre du Châtelet, ça va être une révélation de la beauté de ce théâtre qui est revenu.
Et un mot justement sur peut-être les artistes, les œuvres qui réapparaissent, je pense notamment dans les salles commune, dans le grand hall, dans au balcon au premier étage.
Oui, alors l'idée était de revenir le plus proche possible du projet de l'architecte Daviou lorsqu'il a construit le théâtre du Châtelet en 1862. Et dans ce projet, en particulier la façade, portait toute une série d'éléments qui ont disparu par la suite au cours de l'histoire. Et en particulier quatre statues sur la balustrade de ce qu'on appelle la terrasse du salon Nijinsky qui vont réapparaître. Elles vont être remises en place juste avant.
Et puis aussi des tapisseries, etc.
Le foyer aussi a été remis à son état originel.
Avant qu'ils rentrent en scène, leur distance de séparation est très bien. Dès qu'il y a un moindre mouvement d'ombre, on le voit. Tristan et Mathias, c'est très bien. Pour que Mathias vienne à la face un tout petit peu plus tôt, Et en fait, là où Mathias arrive, ça doit être la douche du petit garçon. D'abord, Alexandra, faut que tu regardes les deux garçons, ils ont déjà jeté leur veste. Donc les garçons, en même temps qu'Alexandra, les trois en même temps. Un. Regardez, essayez de... Alexandra, faut que tu sois celle qui regarde les garçons.
Alors on entend, c'est Stéphane Ricordel, le directeur artistique pour la partie boîte noire du spectacle Parade. C'était hier après-midi, on était avec vous pour une des premières répétitions de ce spectacle Parade qui sera donc donné au théâtre de la ville, au théâtre du Châtelet les 13, 14 et 15 septembre, mais aussi justement à l'Hôtel de Ville. Et c'est là que je voulais en venir puisque c'est une parade, c'est un spectacle qui commence à l'Hôtel de Ville, qui va jusqu'à la place du Châtelet, et puis ensuite le spectacle de soir, c'est ça le projet?
C'est ça. Alors, Parade, pour qu'il n'y ait vraiment pas de confusion, ce n'est pas la reprise du spectacle qui avait été créé en 1917 au Théâtre du Châtelet. C'est l'inspiration qui nous a donné le titre. Et cette inspiration, c'est de demander à des artistes, chacun dans leur discipline, de venir partager leur amour et leur passion du spectacle pour accueillir le public à une très grande fête à l'occasion de la réouverture.
Par exemple, les marionnettes géantes du Mozambique, pour prendre cet exemple, ou d'autres. L'homme du cirque, hein. Stéphane, qu'on entendait Ricordel, il vient du cirque, donc il y a des trapézistes, on a vu des répétitions hier, etc.
Et Elizabeth Streb, qui dirige la troisième troupe, elle a commencé comme chorégraphe et puis elle a inventé une forme, l'action extrême. Elle croit que tout le monde peut voler comme un oiseau. Et pour elle, elle est inspirée par Picasso et par l'esprit du cubisme.
Et dans ce spectacle, on aura également alors à la fois la musique de Satie, de la musique d'un compositeur français contemporain qui s'appelle Pierre-Yves Massé, interprété par l'ensemble intercontemporain, et le groupe de musique ukrainienne Darka Braka. Donc on est le théâtre de toutes les musiques.
Que l'on écoute justement dans la répétition d'hier. Si on revient au nom de Parade, donc vous l'avez dit, même si c'est une reconstruction un peu d'une autre manière, évidemment un siècle après, c'est un ballet très court de Cocteau, très polémique à l'époque, dont l'inspiration reste complexe d'ailleurs.
Le point de départ, c'était un ballet au sujet de trois troupes de cirque qui luttent pour le public.
Et ça, vous recréez
pour cette
ça.
Raison, oui, nous avons fait une commande à trois troupes, pas tout à fait de cirque. Stéphane Ricordel, il est le plus proche du monde de cirque. Mais par exemple, nos amis de Maputo, on travaille toujours dans une forme assez politique, je peux dire. C'est-à-dire, on vient dans un village, on demande qu'est-ce que c'est l'histoire le plus urgent, qu'est-ce qu'on peut discuter avec vous. Et puis, on écrit un drame au sujet, inspiré par les choses les plus difficiles dans le monde du village. Donc, notre équipe de Maputo, on a fait les ateliers. Ici à Paris, on a posé la même question. Il y aura sur le pavé à l'Hôtel de Ville une création au sujet de je sais pas quoi, les choses que les gens de Paris, les citoyens et citoyennes de Paris ont choisi. Et c'est les citoyens et citoyennes qui ont écrit la pièce, en fait. Et puis, on a créé encore les marionnettes. Et donc, on commence sur le pavé à l'Hôtel de Ville avec les ateliers pour toutes les familles, tous les gens qui ont envie de comprendre les trucs de cirque ou créer les costumes, les vêtements de carton comme Picasso et pour le parade. Et puis il y a le premier spectacle, la première performance. Et le deuxième performance, c'est inspiré par Sarti. Et c'est les amateurs, les professionnels, les élèves, les enfants, tout le monde, dans toutes les salles de foyer de théâtre de Châtelet. Mm. Et toutes les premières parties sont gratuites pour tout le monde. Ça, c'est très important.
Et c'est aussi, évidemment, Diaghilev et toute cette histoire des ballets russes. Je vous invite d'ailleurs à lire, on en reparlera peut-être dans cette émission, et en tout cas sur France Culture, dans le journal de Julien Green, qui est un journal intégral qui paraît dans quelques jours. Il y a tout un tas de révélations assez inattendues sur Diaghilev, mais aussi sur Serge Liffard, leur relation à Paris. Et précisément, puisque c'est un journal des années 20, précisément au moment où la pièce est créée, je vous invite à lire ça. Une question aussi, au fond, parade, quand on regarde bien sa date de création, c'est Cocteau. Cocteau, à cette époque-là, est très influencé, notamment par les surréalistes, mais aussi par tout un tas d'autres facteurs. D'où peut venir ce nom de parade, selon vous?
Pour moi, la chose la plus intéressante, c'est que c'était la première fois que Cocteau a écrit un ballet. Mm. C'était la première fois que Satie aussi, il a écrit la musique pour un ballet. C'était la première fois que Picasso a fait le décor, il a fait la peinture sur notre scène.
Et alors, si on prend le lien entre tous ces gens-là...
Jusqu'à fini, pour moi, peut-être la chose la plus importante dans toutes les influences, c'est que on peut inviter les gens de participer, d'être dans le spectacle. Encore, s'il y a les gens qui ont envie d'être dans le spectacle, on peut venir faire les ateliers, les répétitions maintenant. Et ça, pour moi, c'est absolument dans l'esprit de l'innovation de ballet russe, mais c'est dans l'esprit de 21e siècle.
Il y aura même une Cocteau machine
moment-là. Cocteau machine, exactement.
Vous vérifierez ça et vous regarderez, mais une des origines sans doute de Parade, notamment c'est vrai pour Picasso, qui est extrêmement influencé par ce poème, qui expliquera d'ailleurs qu'il fera un portrait de Rimbaud. Cocteau est totalement fasciné à cette époque-là de Rimbaud, et comme vous le savez sans doute, dans Illumination de 1886, et qui devient très célèbre au début des années 10, grâce aux surréalistes, Aragon, etc. Il y a un des plus célèbres poèmes d'Illumination qui s'appelle Parade, avec cette phrase célèbre qui clôt d'une certaine manière la pièce, que je vous lis comme ça, on pourra en reparler, etc. C'est cette formule célèbre de Rimbaud. À la fin de ce poème Parade, il dit « J'ai seul la clé de cette parade sauvage ». Et c'est la fin de ce poème Parade. Donc peut-être qu'il y a aussi cette origine-là au nom même de cette pièce.
Bon, du coup, moi, je pose effectivement une dernière question, la question qui fait mal, mais la question des sous. Vous l'avez dit, il y a des parties qui sont gratuites. La question toujours des tarifs. Donc, quand on relance un théâtre, c'est une question qui a l'air tout à fait basse et pragmatique, mais elle est quand même cruciale. On sait que l'Opéra de Paris se bat quand il fait des productions à venir, les Indes Galantes qui essayent de regrouper à la fois des grandes troupes, un orchestre, des chanteurs. C'est toujours des tarifs nécessairement très élevé. Comment est-ce que vous avez voulu penser cette grille tarifaire? Je suis désolée de poser cette question.
Non, c'est très important. Il faut commencer avec les 10 000 billets pour 10 euros pour les jeunes moins de 26 ans. On a déjà annoncé.
Une tarification d'un théâtre, c'est de toute façon un système de répartition et de redistribution. Parce qu'il y a des places qui coûtent très cher, qui permettent de financer des places qui coûtent beaucoup moins cher. Et nous, on veut pousser ce système-là le plus loin possible. Donc, effectivement, on a un programme de 10 000 places tout au long de la saison à 10 euros pour les jeunes. Et on a aussi un autre programme qu'on a intitulé Robin des Bois, qui est un peu l'idée d'une place suspendue où toute personne, mécène ou non mécène, peut acheter une place en plus de la sienne pour l'offrir gratuitement à quelqu'un qui n'a pas l'occasion de venir au théâtre.
Comme le café suspendu, vous avez repris cette idée?
Comme Romain de Bois, en fait, qui a volé des riches.
Surtout comme Romain de Bois.
Pour donner aux pauvres. Merci infiniment, Ruth Mackenzie et Thomas Loriot, dit Prévost. Vous êtes les nouveaux directeurs en duo du théâtre du Châtelet. On vous invite, on vous recevait ce soir à l'occasion de la réouverture de ce théâtre du Châtelet, et avec en ouverture donc la pièce Parade. Soft Power, ça continue dans un instant, seconde partie de cette émission, avec à 19h15 Le Monde selon Amazon, et dans un instant à 19h on parle de la souveraineté numérique française. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes et sur la page de Soft Power sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après Soul King sur France Culture.
le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. S'il faut, vos discours sont si faux. Ouais, s'il faut, qu'on a fini par s'y faire. Mais c'est fini.
La liberté de Saul King, c'est le morceau que l'on écoute, morceau de l'artiste algérien devenu avec ce titre un véritable symbole de la révolution toujours en cours dans les rues d'Alger. Liberté donc, mais voilà que le 22 août, tout récemment, à l'occasion du seul et unique concert donné par le rappeur en Algérie, 5 jeunes ont trouvé la mort dans une bousculade. En cause, le protocole de sécurité jugé insuffisant. Ce tragique accident a conduit la ministre de la Culture algérienne, Meriem Merdassi, à présenter 2 jours plus tard sa démission. Le morceau Guérilla de Saul King a déjà atteint des 230 millions de vues sur YouTube et ce morceau-ci, La Liberté, 150 millions. C'est l'un des artistes francophones les plus populaires actuellement au Maghreb, en Afrique francophone, en France, mais également aux États-Unis. Bref, le soft power en français.
France Culture, soft power. Frédéric Martel.
Il est 19h sur France Culture, vous écoutez Soft Power, magazine des industries culturelles et du numérique, désormais donc tous les dimanches, nouvel horaire de 18h10 à 19h30. La souveraineté numérique française, le sujet est dans l'air du temps, il est aussi au cœur de notre modèle économique. Une commission d'enquête sur la souveraineté numérique aura lieu demain, lundi, au Parlement français avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, la ministre des Armées, Florence Parly, et le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. 4 ministres donc, ce n'est pas rien, demain au Sénat, au chevet de la souveraineté numérique. Alors avant de parler avec vous, Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, et Gilles Fontaine, journaliste à Challenge, avant de parler et de revenir sur l'état au fond de cette souveraineté numérique française aujourd'hui, peut-être Emmanuel, on pourrait revenir à ce qu'elle est depuis longtemps et notamment à son historique depuis au moins De Gaulle.
Exactement, depuis 50 ans, la souveraineté numérique ou des nouvelles technologies en France, c'est un petit peu la marotte de tous les présidents de la République. Alors Charles de Gaulle avait commencé en 1966 avec le plan Calcul. Alors je sais pas si ça rappelle des choses à certains, mais ce plan Calcul, c'était destiné en fait à développer une souveraineté française en matière d'informatique, en matière de circuits intégrés et de formation autour de tout ce qui touchait autour de l'informatique, et notamment avec Bull, qui avait été racheté à l'époque par General Electric, qui ne s'appelait pas encore GE, et qui avait créé une forme d'électrochoc, puisqu'on avait vu un des champions français partir vers les États-Unis. Alors le plan au calcul, l'idée c'était de pousser des champions nationaux à investir et à travailler avec des grandes entreprises, notamment allemandes, du type Siemens, ou certaines entreprises des Pays-Bas, comme Philips, pour essayer de générer en fait des calculateurs et un informatique européen pour faire face à IBM, dont la montée en puissance était extrêmement forte à cette époque. Alors, ça n'a pas fonctionné du tout. Les entreprises ont été subventionnées par de l'argent public, mais au final, le plan calcul a été un énorme échec. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a mis fin lorsqu'il est arrivé au pouvoir quelques années plus tard. Après, il y a eu un deuxième plan, un plan informatique cette fois, de Mitterrand, donc dans les années 80. Donc là, l'idée c'était, en 1985, l'idée c'était d'équiper les collèges, les lycées d'ordinateurs, de Thomson, en gros, hein, des TO5 et MO5, pardon, TO7, TO9, sur lequel on demandait aux étudiants de commencer à faire de la programmation, notamment en logo. Alors je sais pas si certains s'en souvenaient, hein, c'était Avance Tortue, Recul Tortue. C'est pas des choses qui aujourd'hui sont extrêmement utilisées.
Si, elles sont au musée Pompidou, sans doute.
Mais on apprenait
d'art contemporain.
Voilà, donc on apprenait à coder en basique ou en logo. Donc ça a permis quand même à pas mal de jeunes élèves d'avoir un premier contact avec l'informatique. En revanche, on n'a jamais pu être entraîné sur des logiciels utilitaires, notamment de bureautique. Donc ça a été un deuxième échec, ce plan informatique. Et puis après, on arrive à Jacques Chirac avec Quero, le moteur de recherche souverain, fait par les Français et par les Allemands pour essayer de contrecarrer Google. Aujourd'hui, Coiro, pareil, on n'en entend plus parler. Et puis, on arrive à Sarkozy, Nicolas Sarkozy, et son plan d'un cloud souverain. Là, on va y venir tout à l'heure. L'idée était de faire un pendant à Amazon, dont on parlera un peu plus tard, et d'AWS notamment, et de développer, face à Google aussi, des champions français qui puissent héberger des données directement sur le territoire français, sous législation française, et pas que les données partent un peu partout à l'étranger.
Alors la souveraineté numérique française, c'est notamment les licornes. Alors une licorne, c'est quoi une licorne ?
Une licorne, c'est une entreprise qui reste privée, donc qui n'est pas cotée en bourse et qui est valorisée plus d'un milliard de dollars.
Alors les licornes françaises, quelles sont-elles ? On peut en faire une liste rapide, évidemment, on a toujours sujet à débat, mais en gros, on peut citer vente privée. On peut citer OVH, qui est essentiellement du cloud français, je crois Roubaix comme siège social, Blablacar, Doctolib, Ivalua, Mereo ou encore Deezer. Donc là, c'est
Miro.
On pourrait dire un peu des succès français encore qu'on peut en débattre. Et on va le faire. Et puis, il y a des échecs déjà, on peut le dire. Et là, tout de suite, on en vient au cloud, ce que vous évoquiez Emmanuel Paquette il y a un instant, et notamment on l'a appris cet été, la fermeture définitive par Orange, enfin ça va prendre encore quelques mois, de CloudWatt. Alors qu'est-ce qui s'est passé Gilles Fontaine sur ça ?
Alors sur CloudWatt, c'est un petit peu l'histoire une histoire à répétition en fait. CloudWatt effectivement c'était une entreprise qui a été rachetée par Orange, intégrée par Orange, et le projet c'était effectivement de participer à ce programme
Et d'avoir un service d'hébergement de données sensibles qu'il soit hébergé en France.
Éviter que, en plus, comme Orange n'a absolument aucune activité commerciale aux États-Unis, ça marchait plutôt bien. On a déjà demandé plusieurs fois à Orange de jouer un petit peu les pompiers sur certaines entreprises.
Sur Deezer, sur Dailymotion.
Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas en France, ça ne fonctionne pas aux États-Unis, ça ne fonctionne nulle part. C'est-à-dire que quand on essaie de mettre une culture la culture d'une entreprise, d'une start-up, d'une jeune entreprise à très forte croissance dans un grand groupe, en général les choses dérapent assez vite. D'abord le management de ces petites entreprises s'en va, les talents s'en vont et le management d'Orange ne sait absolument pas comment gérer ces équipes et les projets qu'elles sont en train de mettre en place.
Donc, mais au-delà d'Orange, c'est aussi un projet national de souveraineté numérique qui vise à se dire on va décider un peu de manière Emmanuel Paquette top-down, depuis le sommet, depuis l'État, voilà, on va décider, on va avoir notre cloud français. C'est ça le projet et ça c'est compliqué aussi.
C'est compliqué, mais ça peut fonctionner, hein, puisque Airbus, ça a fonctionné dans l'industrie. C'est vrai que sur Internet et dans les nouvelles technologies, ce que disait Gilles est assez vrai, c'est qu'il faut beaucoup plus d'agilité. Et donc, généralement, avec notre tradition colbertiste en France, on décide de centraliser ses décisions à Paris, et puis de Paris, effectivement, de mettre les champions dans certains domaines dans la boucle en leur octroyant des subventions pour essayer d'attaquer des nouveaux domaines. Les États-Unis font pas du tout la même chose. Les États-Unis peuvent porter des petites entreprises, leur donner des contrats étatiques, hein, donc c'est aussi piloté par le gouvernement, contrairement à ce qu'on pense. Les États-Unis sont extrêmement interventionnistes, mais pas de la même façon.
Beaucoup de subventions indirectes d'aides via les universités ou autres.
Aux universités. Et donc ça permet à des entreprises, à des petites entreprises, d'avoir des contrats avec l'État et de pouvoir faire du chiffre d'affaires très très rapidement. Et certaines meurent, et d'autres pas. Mais en tout cas, c'est pas piloté directement par le gouvernement.
En tout cas, c'est initié beaucoup plus en amont. Si on prend effectivement ce que la DARPA, donc l'organe de recherche du ministère de la Défense américain, qui a initié hein, finalement les protocoles Internet, là, on est vraiment très en amont. On initie un projet, on met des milliards de dollars dans les projets de recherche et développement. On crée un écosystème avec beaucoup de petites entreprises et on fait également travailler les géants. Tout ça se travaille dans une espèce d'environnement plutôt effectivement qui crée beaucoup de valeur et puis surtout qui crée une technologie de zéro.
Alors parmi
il y a deux contre-exemples, hein, c'est la Chine et la Corée du Sud qui aujourd'hui pilotent
leur cloud,
pilotent même des investissements stratégiques dans les télécoms, et là c'est plutôt un succès. Aujourd'hui Samsung et LG en Corée du Sud, sans l'impulsion de la Corée du Sud et du gouvernement qui les a protégés d'une certaine façon, et ça serait pas les groupes qu'on connaît aujourd'hui. Donc tout n'est pas acheté sur le côté, c'est piloté depuis l'État.
Alors, mais il faut faire attention. Là, on évoquait le cloud, on pourrait évoquer aussi les moteurs de recherche, en l'occurrence les équivalents français de Google, pour aller vite. Et là, c'est toute la polémique qui a éclaté également cet été autour de Quant. Alors d'abord, une enquête très, très critique, il faut bien le dire, du Figaro, signée par Emmanuel Enguerrand-Renaud et Lisa Brown, ainsi qu'un article très long de Next Impact, hein, qui montre concrètement que Quant, le moteur de recherche français, que le gouvernement tente d'imposer à l'administration, est en difficulté, Emmanuel Paquette.
Oui, parce que comme d'habitude, donc là c'est la Caisse des dépôts et consignations, donc le bras armé de l'État qui a financé le démarrage de Quant. Et aujourd'hui, Quant, alors sur les derniers chiffres officiels, fait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 8,5 millions de pertes. Alors,
donc le chiffre décolle pas, les pertes s'accumulent malgré le soutien sans faille des pouvoirs publics, si je cite le Figaro.
Exactement. Et après, donc il y a eu aussi effectivement des critiques de la part de, vous parliez de l'article de Next Impact, sur le côté l'index, donc du moteur de recherche, ce sur quoi est basé en fait le moteur, qui une partie de l'index n'aurait pas été renouvelée depuis 2017. Donc Quant a dit que c'était faux, puis après ils ont dit finalement effectivement c'était vrai et qui c'était dû à un bug lors d'un changement technologique au sein de la société. Donc il y a aussi des errances et des erreurs de communication au sein de Quant qui fait qu'aujourd'hui la société est relativement affaiblie et qu'il y a deux audits qui sont lancés pour savoir où en est la technologie. Un audit mené par l'ANSSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, et un autre audit lancé par la DINSIC, donc la Direction du Numérique, qui est rattachée directement à Bercy de mémoire.
Gilles Fontaine, un mot sur Quant, le cas échéant.
Oui, sur Quant, c'est compliqué de se bagarrer contre Google et d'essayer d'imposer un moteur de recherche français, voire européen. Il y avait en plus
surtout quand on s'autoproclame le concurrent de Google, oui, pour l'Europe.
Voilà, et on peut pas leur reprocher de vouloir faire un peu de marketing. Alors c'est vrai que ça tient aussi à la personnalité d'un des cofondateurs, Léandri, qui est effectivement un monsieur qui se laisse pas faire et qui un vrai Corse qui sait effectivement tenir à distance ses ennemis et qui est un peu victime de ça. C'est-à-dire qu'une bonne partie des critiques viennent de un ou plusieurs anciens salariés qui ont été licenciés et qui, il faut le reconnaître, abreuvent la presse parisienne de leurs petites anecdotes.
Alors, souveraineté numérique française, parlons de choses qui vont beaucoup mieux. C'est un euphémisme. Deezer d'abord, Emmanuel Paquette, qui est bientôt plus français.
Ça fait un petit moment déjà, effectivement, puisque son principal actionnaire est Access Industries, donc, qui est également le propriétaire de Warner Music. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une forme d'intégration verticale, c'est-à-dire que Warner Music, la major du disque, est distribué par Deezer. Alors, Deezer ne distribue pas seulement Warner, hein, il distribue les autres catalogues, mais on voit bien la logique d'avoir et le distributeur et le fournisseur.
Et tout ça, en tout cas, pas tellement en France.
Voilà, puisque c'est Len Blavatnik, donc qui est d'origine russe, qui est à la tête de cette société, donc un milliardaire. Donc effectivement, c'est déjà plus totalement français, oui.
Dailymotion, pour terminer ce tour d'horizon. Dailymotion, là, on est sur une marque qui a, on peut dire, blanche, qui est utilisée par beaucoup de sites, etc. Mais plus personne ne la voit, puisque les consommateurs, le grand public, va sur YouTube et presque exclusivement. Dailymotion était chez Orange. Il y a un problème de gouvernance, là encore. On en est où aujourd'hui et qu'est-ce que ça dit de la souveraineté numérique française?
On a demandé, effectivement, à Orange, à l'époque, de reprendre ce fleuron de la high-tech française, qui se bagarrait là encore une fois contre...
Oui, qui avait bien réussi d'ailleurs.
Qui avait plutôt bien réussi, parce qu'ils ont
une vraie innovation française.
La plateforme Dailymotion est même antérieure à la création de Google. Hein. C'est-à-dire que...
YouTube.
YouTube, qui a été ensuite racheté par Google. La technologie était très bonne, la stratégie était bien aussi, puisqu'ils avaient réussi leur développement à l'international. Mais pour développer une infrastructure comme celle-là, supporter de la vidéo à la fois sur les fermes de serveurs et sur les réseaux, il faut des investissements colossaux que Dailymotion n'avait pas. Et aujourd'hui, Dailymotion est entre les mains de Canal+,
Vivendi,
Vivendi, et voilà, vous l'avez souligné,
la marque a quasi disparu.
De disparaître.
Quand est-ce que vous avez vu une vidéo sur Dailymotion?
Moi, j'en ai vu une la semaine dernière.
Ça peut arriver,
mais c'est très rare. Alors, puisque Vivendi est évoqué, un mot, Emmanuel Paquette, de la négociation préliminaire que Vivendi a ouvert cet été avec Tencent, donc géant chinois, pour vendre une partie, en tout cas, mais peut-être davantage par la suite, d'Universal Music Group. Alors là, c'est Universal Music, c'est quoi? C'est le leader, le numéro un de la musique au monde, et c'est français. c'est encore français, encore aujourd'hui. Le deuxième étant Sony, et c'est japonais. Le troisième, on l'a dit, c'est Warner, et c'est américain. Donc, on est leader mondiaux, si on peut dire, nous, français, cocorico, de la musique avec Universal Music Group. Mais Vivendi souhaite, pour partie, vendre une partie de ses actifs aux Chinois.
Oui, alors pour l'instant, ça serait une participation minoritaire. Donc, effectivement, ça resterait. Vivendi conserverait le contrôle de la structure, enfin, en l'état, en tout cas, aujourd'hui, en l'état des négociations. Effectivement, Tencent, c'est quand même un ogre chinois. C'est une des sociétés qui fait partie de ce qu'on appelle les BATX. C'est l'équivalent des GAFA en Chine.
Baidu, Alibaba, Tencent.
Justement, et Xiaomi, qui est le fabricant de téléphone portable concurrent d'Apple et de son iPhone. Et aujourd'hui, Tencent, il est dans plein de domaines différents. Il est très connu pour WeChat, qui sont l'équivalent de WhatsApp en Chine, mais qui permet non seulement de communiquer avec ses proches, mais de faire des paiements, de lire la presse, et donc probablement d'acheter de la musique en ligne d'ici peu, et de jouer à des jeux vidéo, puisqu'aujourd'hui Tencent a aussi une division jeux vidéo qui est extrêmement, extrêmement puissante. Donc c'est un géant qui essaye de mettre la main sur des contenus, comme il l'a fait avec plusieurs studios de jeux, en Corée notamment, ou avec Supercell, par exemple, le grand éditeur finlandais, vous savez, du jeu Clash of Clans, par exemple, que tout le monde connaît sur son téléphone portable, qui appartient aujourd'hui
au... Pas moi, mais... Pas Zoé non plus, mais bon.
Autant pour moi, alors.
Gilles Fontaine. Non,
je voulais compléter ce que disait Emmanuel. C'est une, là, pour le coup, il faut saluer l'opération. C'est une, a priori, on part d'une prise de participation de 10%, qui valoriserait Universal autour de 30 milliards de dollars. Et c'est effectivement l'objectif, in fine, de Vivendi, c'est de donner une valeur à cette pépite au sein du groupe, hein, parce qu'aujourd'hui, Vivendi, c'est plus le Vivendi flamboyant qu'on connaissait d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années.
Ni même le Vivendi non flamboyant de l'époque, oui, Jean-Marie Messier.
Non, mais c'était quand même, peut-être,
il y avait une ambition, voilà, hein, une qui ambition. A échoué, ça arrive, mais il y avait une ambition.
On est sur une belle opération financière, ce qui va permettre de mieux valoriser Vivendi, donc la participation de la famille Bolloré, de Vincent Bolloré dans le groupe de communication. Et puis il y a une stratégie, comme l'a dit Emmanuel,
voilà une note positive.
Oui, oui.
Et pour terminer avec une autre note positive, Zoé,
très positive.
Parlons un petit peu de Luc Besson.
Non, alors voilà, effectivement, on est sur un euphémisme. Toujours Luc Besson, donc on ne va pas revenir sur Luc Besson. Donc la société EuropaCorp a été mise en sauvegarde. Ça, c'était il y a quelques mois. Et il comptait, Luc Besson, sur son nouveau film Anna pour, disons, sauver sa société du cataclysme. En premier semestre 2018-2019, 89 millions de pertes nettes. Et ce film, Anna, est-ce que quelqu'un l'a vu ici autour de la table?
Personne.
Non, ça a été un échec donc cuisant, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Donc Luc Besson est quasiment définitivement perdu. Non, ce n'est pas vrai, mais il a déjà cédé 500 films de son catalogue à Gaumont. Il a vendu ses dernières salles de cinéma à Pathé. Et là, on a appris qu'un fonds américain, Vine, serait intéressé par
un peu vautour,
reprendre EuropaCorp. Ça veut dire un peu vautour, Emmanuel Paquet Pondère. Pardon. Ces assertions. Enfin, tout ça pour dire que ce géant du cinéma français, même si la question de son côté français restait toujours un peu en suspens, risque de ne plus être français du tout dans les mois qui viennent, ce qui quand même n'est pas finalement une si bonne nouvelle que ça pour l'industrie, on est d'accord?
Non, Emmanuel Paquet.
Le fonds en question est aujourd'hui un fonds qui détient une grande partie de la dette d'EuropaCorp. Donc il transforme simplement la dette que EuropaCorp ne peut plus rembourser
en participation.
Ouais. Donc de ce fait, il devient propriétaire du studio. Et c'est vrai que sur les chiffres à l'international du cinéma, EuropaCorp tirer l'ensemble de...
Et à chaque fois, il y avait un cocorico au moment des chiffres à l'export, même si c'était Lucie, que c'était Scarlett Johansson et que c'était en anglais, c'était quand même des films français.
Et ça fait plaisir. Et là, ça sera plus le cas, probablement.
Voilà.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h18 pour terminer cette émission, dernière séquence de Soft Power ce soir. On reçoit Benoît Berthelot, journaliste au magazine Capital et auteur de Le Monde selon Amazon, une enquête dans les coulisses de la machine à vendre, Zoé Sfez.
Benoît Berthelot, vous êtes journaliste et vous avez fait 3 ans d'enquête sur Amazon. Alors Amazon, vous le dites, 25 ans de croissance vorace. une entreprise dont on entend souvent par son initiale quand on parle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. Or, pourtant, vous commencez ce livre en expliquant qu'on est très loin, en fait, des problématiques de Google et de Facebook, que la problématique du monde, selon Amazon, elle va bien plus loin et qu'il est presque, il est très simpliste de rapprocher Amazon de grandes firmes comme Google et Facebook. Pourquoi vous dites ça ?
Parce que donc Amazon déjà n'est pas dans la Silicon Valley, basé à Seattle, et symboliquement se démarque déjà des autres GAFA par ce fait. Et Jeff Bezos se plaît à croire que Amazon n'est absolument pas comme Google et comme Facebook, parce que son entreprise rend un service très concret aux consommateurs, amène des colis à leur porte, leur simplifie la vie en fait. Et en fait, Amazon, c'est vrai, s'est attaqué à une vieille industrie, le commerce, révolutionne un système déjà en place très traditionnel, quand Google et Facebook créent quand même plutôt des activités nouvelles, un réseau social, un moteur de recherche. Et Amazon aussi, c'est par conséquent 650 000 employés, des centaines d'entrepôts partout dans le monde, des camions, des avions, bref, c'est une entreprise qui a un fort impact sociétale, environnementale. Pour toutes ces raisons-là, je pense qu'effectivement Amazon n'est pas du tout un GAFA comme les autres.
Voilà, il a la même voracité, il a la même célérité de développement, mais il a une influence concrète sur la vie et les emplois des gens partout dans le monde, bien plus importante.
Oui, absolument, c'est ça. C'est un modèle, c'est un monde en soi. Le monde selon Amazon, c'est un modèle de consommation, etc. Mais c'est aussi un monde en soi, un micro-État de 650 000 salariés avec à sa tête un gourou, un chef d'État qui a ses propres lois. C'est les 14 commandements, je les appelle dans le livre.
Voilà, mais ça, on va y revenir, justement.
Une vraie philosophie et qui a aussi, effectivement, un modèle de société qu'on peut appeler en sablier. Certains pensent que la société va devenir une société en sablier avec quelques personnes dans le haut du sablier très diplômées, les ingénieurs d'Amazon qui sont peu nombreux, et puis en bas du sablier, ces centaines de milliers de personnels dans les entrepôts, de livreurs qui sont évidemment beaucoup moins bien payés, qui ont des emplois très précaires.
Parce qu'aujourd'hui, Amazon, vous le racontez, on va vous poser la question justement, comment est-ce qu'on passe d'une start-up où on est deux et où on vend des livres à une entreprise qui a aujourd'hui Amazon, Amazon Marketplace, Amazon Prime, Amazon Go, Echo, Alexa, Amazon Web Service, on parlait du cloud tout à l'heure, qui est un service d'Amazon qu'on connaît peu, mais qui en fait est absolument crucial dans cette économie, Amazon Prime Vidéo et même... cette facette du projet de Jeff Bezos qu'on ne connaît que depuis quelques mois, Blue Origin, c'est donc même un projet de conquête de l'espace. Quel est, selon vous, après ces 3 ans d'enquête, ce qui permet à Jeff Bezos de passer de ce statut-là de vendeur de livres à celui qu'il a aujourd'hui en 25 ans ?
Alors d'abord, c'est la personnalité de Jeff Bezos qui est un génie visionnaire, ça on ne peut pas le contester, qui a fait des très bons choix très tôt, évidemment. Il s'est attaqué au sujet en 94, alors que le web était balbutiant, qu'il n'y avait que quelques centaines de sites web à l'époque. Il a mis énormément de moyens et d'ambition dans son projet de librairie en ligne. Il a très vite pensé que par Internet, les gens pourraient tout acheter. C'est même les clients eux-mêmes qui lui ont dit qu'ils seraient prêts à acheter du papier toilette ou des essuie-glaces pour leur voiture sur Internet, ou même des robes, des vêtements. Ça, il n'y croyait pas au début, mais très tôt, il a compris.
Des produits frais par la suite.
Bien sûr, des produits frais à la fin.
Même si c'est un des rares échecs un peu de l'entreprise.
En tout cas, on va dire une industrie qu'il n'a pas réussi à craquer, comme on dit, voilà, qu'il n'a pas réussi à conquérir, mais qui est une poche, évidemment, de notre consommation qui est énorme et à laquelle il veut s'attaquer. Donc, il a mis énormément de moyens pour développer le e-commerce, les entrepôts. Il s'est rendu compte ensuite qu'il fallait du cloud pour nourrir son système, pour faire fonctionner son site internet. Il l'a mutualisé à toutes les entreprises qui voulaient bien acheter ce cloud, et il a profité de la croissance de tout internet finalement, parce que même Netflix, son concurrent sur la diffusion de séries, lui apporte de l'argent.
Même la NSA est hébergée par NSA, Amazon.
Absolument.
Et c'est ça sa vraie puissance finalement, Amazon Web Services.
Oui, c'est aujourd'hui l'activité d'Amazon qui lui rapporte le plus de cash. L'an dernier, 7 milliards 300 millions de dollars, c'est plus que la McDonald's Corporation au total sur un an. Donc c'est vraiment ça qui en quelque sorte subventionne aujourd'hui ces pertes et ces investissements colossaux dans la logistique, dans le commerce. C'est ça qui fait qu'Amazon a des moyens que les autres distributeurs dont les autres distributeurs ne peuvent pas rêver pour l'instant, et qui l'a pris énormément d'avance. Donc effectivement, c'est toute cette vision globale de son entreprise qui s'auto-alimente en permanence, qui lui a permis de devenir ce qu'il est. On peut penser aussi à Alexa, ces enceintes connectées qui sont dans les foyers, qui nourrissent son écosystème de données, de connaissances du profil de ses clients. Et en fait, le socle du commerce, c'était la première étape. Et maintenant, sa connaissance très fine des consommateurs, il va la rentabiliser dans beaucoup d'autres secteurs.
Il y a pas mal de constantes, effectivement, que vous décrivez et qui sont très particulières à ce groupe. La première, effectivement, c'est la volonté et en tout cas la détermination de continuer à investir parfois massivement et à perte pendant très longtemps dans des services jusqu'à ce qu'ils marchent quand ça paraît complètement fou. Des méthodes de relations humaines, de RH, que vous décrivez relativement bien, aussi bien chez les cadres que chez les livreurs, qui sont quasiment inhumaines. Et par ailleurs, donc voilà, une espèce de pari sur l'avenir. Et une autre constante très importante, c'est la volonté affichée, en tout cas, et clairement la position qui consiste à ne pas payer d'impôts.
Oui.
Ça, c'est quand même une constante qui continue d'exister et qui est très, très importante, y compris à un moment où même Amazon Web Services travaille en collaboration avec tout un certain nombre de services publics, on en a parlé.
Oui, absolument. Ça, c'est une activité, par exemple, qui a son siège au Luxembourg. Et à Paris, ils ont 400 employés dans une tour à La Défense. Ils ont des serveurs, trois fermes de serveurs en France, des milliers de clients français. Et malgré tout, cette activité si virtuelle est effectivement basée au Luxembourg. Et c'est aussi un des secrets de la rentabilité de cette activité-là. Effectivement, alors on peut objecter qu'il y a peu de grands groupes aujourd'hui, y compris du CAC 40 et de GAFA, qui ne font pas d'optimisation fiscale. Dans le cadre d'Amazon, effectivement, j'ai tout un chapitre où j'explore, où j'épluche tous les comptes et où je vulgarise ce sujet. C'est quand même assez forcené. Et surtout, c'est face à des entreprises du commerce de détail qui ont des marges très fines et qui, elles, ne peuvent pas compter sur cet avantage qui est pris par Amazon.
Benoît Berthelot, le livre s'appelle « Le monde selon Amazon ». Vous l'avez lu les uns et les autres. Emmanuel Paquette, peut-être une réaction ?
Oui, alors moi j'ai trouvé le livre, qui se lisait très bien, bon, livre d'économie, parce que c'est pas toujours le cas. C'est extrêmement vivant et en plus on part dans différents coins du monde, dont l'Inde par exemple, pour voir un peu où l'entreprise a pu essuyer des revers, notamment face à un concurrent local. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien. Moi, j'avais une petite critique. Il me manque un aspect sur lequel je suis particulièrement sensible, et je pense l'émission aussi, c'est celle de la culture. C'est-à-dire qu'il y a des éléments sur les livres, puisque c'est la base d'Amazon, mais rien sur, relativement peu de choses sur Prime Video, sur la production cinématographique, rien sur les chaînes de télé, puisque Amazon vient de devenir actionnaire de 22 chaînes régionales aux États-Unis, des chaînes de sport, et vient d'avoir des lots de la Premier League en Angleterre pour diffuser des matchs de première ligue comme ils le font déjà en Allemagne avec la Bundesliga. Et ça, c'est pour moi, ça me paraissait un peu si je puis me permettre, un manque, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on rentre dans la grande distribution traditionnelle, chez Carrefour, Auchan, etc., on rentre directement par les DVD, ce qu'il en reste, les livres et la presse, puisque c'est toute la grande distribution aujourd'hui, c'est ce qui attire le chaland dans un premier temps, pour après essayer de lui vendre d'autres choses. Et voilà, ça c'était un petit manque. Voilà, donc
Oui, j'ai volontairement, évidemment, occulté cet aspect, parce que je ne pouvais pas, effectivement, sonder chaque département de l'entreprise Amazon, et j'avais peut-être moins de contacts, et c'était plus compliqué à infiltrer comme monde, parce que c'est le monde des studios, d'Hollywood, etc. Donc je l'ai laissé de côté. Sur la vente de livres et de DVD, effectivement, j'ai considéré que c'était un aspect très connu des gens, c'est la première porte d'entrée d'Amazon chez nous, même si j'en parle. Et après, pour Prime Video, c'est quand même plutôt Amazon qui court après Netflix pour l'instant. C'est un domaine qui est, on va dire, en puissance chez Amazon, avec les droits de Tolkien qui ont été rachetés pour Le Seigneur des Anneaux. Donc ça, pour moi, c'est plutôt la puissance d'Amazon dans le futur, ouais. Parce qu'ils n'ont pas percé, ils n'ont pas encore un succès énorme, en tout cas
un
en France.
Un mot, Gilles Fontaine, n'est pas guère plus.
Un mot, mais juste pour dire effectivement que c'est une enquête absolument incroyable, et qu'on rêve tous, journalistes, d'avoir effectivement 300 pages pour raconter l'histoire fabuleuse d'Amazon, avec ses bons côtés et puis ses côtés plus sombres, et puis avec à la tête un personnage, Jeff Bezos, qui est probablement l'entrepreneur le plus visionnaire qu'on ait connu depuis Bill Gates, par exemple.
Et angoissant, quand même.
Et angoissant. Reste là pour ce soir. Merci infiniment à tous. Zoé Sfez, Emmanuel Paquette, Gilles Fontaine. Merci à Benoît Berthelot d'avoir été notre invité en fin d'émission ce soir. Pour aller plus loin, toutes les références des articles et des livres dont on a parlé durant cette émission, les musiques qu'on a diffusées et bien d'autres contenus supplémentaires sont à retrouver sur le site de France. France Culture, émission Soft Power. Vous pouvez vous abonner à Soft Power sur notre site France Culture. La semaine prochaine, on consacrera notre émission à la rentrée télé et au nouveau format télé. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que demain matin, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, sera l'invité des matins de France Culture. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.